Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au tourisme culturel. À l'ordre du jour ce soir, le tourisme culturel est-il un modèle qui s'écroule ? L'été fut terrible pour bien des lieux de culture, en particulier les musées et le patrimoine culturel en général, habitués chaque année à battre des records de fréquentation. Plus encore, d'ailleurs, pour la région parisienne, désertée par une bonne part des touristes internationaux. C'est moins vrai de régions plus rurales, dont les monuments historiques ont parfois créé la surprise en attirant plus de visiteurs que les années passées. Mais le Louvre, le Mont-Saint-Michel, Versailles, qui craignaient de faire les frais il y a encore quelques mois pour certains d'entre eux, du surtourisme, ont découvert, à leur grande âme, la décrue des entrées et des recettes de billetterie, plongeant dans le doute les gestionnaires de ces lieux et dans la détresse celles et ceux qui permettent aux touristes de mieux comprendre les lieux qu'ils visitent, comme par exemple les guides conférenciers. Faut-il dire pour autant qu'un modèle de tourisme culturel s'est effondré ? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités. Jean-Michel Tobelem, il est professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur d'Options Culture. Philippe Bélaval, il est au téléphone avec nous, il est président du Centre des Monuments Nationaux. Et Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Et je vous pose d'abord cette question à vous, puisque c'est vous qui, dans des interviews récentes, avez dit « eh bien, c'est un modèle qui s'effondre ou qui s'est effondré », Catherine Pégard.
Je parlais économiquement, bien sûr. Bien sûr que, comme je l'ai déjà dit, trois chiffres suffisent à le comprendre. Nous avions 80% de visiteurs étrangers. La billetterie représente 75% de nos ressources propres et les ressources propres du château de Versailles constituent 85% de son budget. Donc je n'ai pas besoin de m'étendre davantage là-dessus pour vous dire que effectivement nous sommes dans une grande difficulté économique. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là, surtout un jour de rentrée. Mmh. Et je pense qu'il faut voir aussi le bénéfice qu'on a pu tirer de cette expérience, hélas, extrêmement douloureuse, mais comment on envisage la suite, parce qu'il faut regarder de l'avant, voir une suite. Et tout à l'heure, vous parliez de l'effondrement du tourisme culturel. Je pense qu'on est dans une situation économique extrêmement difficile, mais que le tourisme culturel n'est pas mort, mmh. et que tout le démontre cette année, puisque tout le démontre en France, dans tous les musées, dans tous les châteaux, il y a beaucoup de monde. Alors à Versailles, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde que d'habitude. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, et je crois que Philippe Bélaval pourra le dire mieux que moi, il y a beaucoup de musées en province qui voient une affluence qu'ils n'ont pas connue. Et je trouve ça formidable. Et puis, tous nos amis du monde entier restent dans leur pays pour visiter, comme nous, leur propre pays. Donc le tourisme n'est pas mort, il s'exerce autrement, malheureusement.
Oui, mais nous avons eu la chance de vous avoir juste avant l'été, et vous êtes rare dans les interventions publiques, et nous vous remercions de venir régulièrement à ce micro, Catherine Pégard. Et à ce moment-là, vous disiez, ben, nous avons les jardins, nous avons des espaces très grands, 800 hectares pour le parc de Versailles, donc on va pouvoir peut-être avoir plus de touristes qu'on pourra emmener ailleurs que dans les endroits habituels. Est-ce que ça a été le cas, par exemple ?
C'est ce que nous avons fait, effectivement, en respectant les consignes sanitaires qui nous étaient données. Nous l'avons fait, je crois, avec la plus grande exigence et nous continuerons à le faire puisque, évidemment, malheureusement, tout nous confirme que l'automne ressemblera beaucoup à l'été. Sur ce point, eh bien, nous essayons effectivement d'entraîner nos visiteurs et qui sont en majorité cette fois français, puisque aujourd'hui 80% des visiteurs du château de Versailles sont français.
C'est contre l'exact 80%. Inverse. L'exact inverse.
Et c'est l'exact inverse. Et c'est 80% de français. Peut-être que d'ailleurs ils redécouvrent Versailles. Certains y viennent quand ils sont enfants ou adolescents et ils reviennent très tard après avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et cette année, on a le grand plaisir de voir évidemment des Français, mais surtout beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes qui, je crois, avaient un petit peu perdu de vue que ce qu'était Versailles et peut-être le voient différemment parce que nous avons ouvert 60 nouvelles pièces depuis 9 ans, par exemple, parce que nous avons créé des parcours dans les jardins qui n'existaient pas, le parcours des arbres admirables, le parcours des sculptures. Vous pouvez aller de sculpture en sculpture pour visiter le château,
jardins. Un des grands désirs de Louis XIV que de faire cela, justement.
Voilà, donc vous avez une manière différente de montrer les jardins, comme il l'aurait dit lui-même. Et là, c'est à travers une trentaine de statues, alors qu'il y en a 800, et vous allez de point en point et vous visitez Versailles autrement et d'une manière peut-être à la fois pédagogique et, je l'espère, légère, amusante.
Philippe Bélaval, merci d'être avec nous au téléphone. Vous êtes sur la route du retour vers Paris où vous dirigez le Centre des Monuments Nationaux et vous êtes arrêté dans un de ces beaux monuments nationaux. Et pour me faire plaisir, parce que je suis poitevin, vous êtes arrêté à Sensé, ce magnifique site antique, donc où vous n'avez pas pu donner, on n'a pas pu donner l'opéra traditionnel qui est donné chaque été dans l'amphithéâtre de Sensé. Vous y êtes aussi pour cela, j'imagine, Philippe Bélaval.
Oui, absolument, mais le cas de Sensé est particulièrement intéressant et je suis heureux de pouvoir m'exprimer depuis ce site aujourd'hui. C'est que ça fait partie des sites dont la progression en 2020 est en réalité en progression par rapport à 2019. C'est-à-dire que le site gallo-romain, malgré l'annulation du festival, aura reçu davantage de visiteurs en 2020 qu'en 2019, ce qui atteste bien l'existence d'un mouvement de redécouverte d'un patrimoine que on laissait de côté ou que l'on oubliait.
Et il faut expliquer, Philippe Bélaval, que le Centre des Monuments Nationaux rassemble de très grands monuments très connus, Carcassonne, le Mont Saint-Michel, la Conciergerie, des lieux comme cela, l'Arc de Triomphe, le Palais Royal, mais aussi des monuments moins connus sur le territoire et qu'ils n'ont pas connu le même sort pendant cet été, c'est cela ?
Absolument, nous avons un été extraordinairement différencié. Si vous voulez, globalement, on a une fréquentation qui est autour de 50% de la fréquentation de l'été dernier, hein, sur la même période. Juillet, j'ai pas encore évidemment les chiffres complets définitif du mois d'août. Il y a des monuments qui sont au-dessus, comme Sensé dont nous parlions il y a un instant. Et puis, il y a en revanche des monuments qui sont en dessous et même très en dessous, comme les monuments parisiens, qui ne dépassent pas 20 à 30% de leur fréquentation estivale habituelle. Mais c'est parce que le tourisme étranger n'est pas là.
Oui, et ça veut dire que, par exemple, c'est une prime au rural que vous avez pu connaître dans cet ensemble de très grands monuments nationaux que sont les monuments que vous gérez au CMN.
Le rural, effectivement, les grands espaces de manière générale, vous avez parlé du Mont Saint-Michel, qui ne fait pas une si mauvaise année du tout que cela. Je crois que les Français avaient besoin de mer, de montagne, de campagne, de forêt. Et c'est vrai que nombre de nos monuments sont situés dans des régions qui leur offrent tout ça. Donc ça permet effectivement de faire un équilibre que d'autres institutions qui sont plus centrées sur des lieux plus difficiles, un équilibre que toutes les institutions ont davantage de mal que nous à trouver.
Alors Jean-Michel Tobelem, vous êtes le troisième invité de cette discussion. Vous êtes spécialiste de cette question du tourisme culturel, mais également de tout ce qui concerne le mécénat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet été qui aurait pu être meurtrier, qui n'a pas été peut-être autant qu'on l'a craint pour le patrimoine et le tourisme culturel?
Mais il est d'autant moins qu'il faut distinguer plusieurs cas de figure. Là, on a parlé des grands monuments qui souffrent, effectivement, parce qu'il y a moins de visiteurs, il y a moins de ressources propres venant des boutiques, des restaurants. Il y aura moins de mécénat à l'avenir. Donc, effectivement, les voyants rouge s'allume au même moment, ce qui est préoccupant. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de musées et de monuments dans notre pays qui dépendent finalement assez peu des ressources propres parce que la fréquentation est relativement modeste.
14 000 musées et monuments classés, 29 000 monuments inscrits, 3 000 jardins protégés, c'est cela, et voilà. 1 200 musées qui sont dans la catégorie musée de France.
Cela, on a des cas de figure très différenciés, ils vont beaucoup moins souffrir. Alors, il faut distinguer ceux qui sont soutenus pour la puissance publique, pour lequel ça ne changera pas grand-chose, puisque l'essentiel des dépenses a été couverte en tout état de cause par les collectivités. Mais il ne faudrait pas oublier une troisième catégorie, c'est-à-dire les sites soit appartenant à des personnes privées, hein, et c'est le cas de nombreux châteaux de notre pays, soit des sites associatifs peu soutenus par la puissance publique, et je suis beaucoup plus inquiet, si je puis me permettre de le dire, pour ces sites, parce que, bien évidemment, la puissance publique viendra au secours, s'ils en avaient besoin, de Versailles, du Louvre, du Centre Pompidou, mais disons que ça ne fait pas de doute, puisque ce sont des monuments d'un très grand prestige, voilà, qui participent du rayonnement de la France. Donc, je crois qu'il faut apprécier ces différents cas de figure, et se dire que le moment que nous vivons prolonge d'une certaine manière, malgré son caractère très dramatique, des tendances qui étaient déjà à l'œuvre et donc peut-être nous offre la possibilité de se dire, est-ce que nous n'étions pas allés trop loin dans un modèle productiviste, hein, si je peux m'exprimer ainsi, en recherchant toujours plus de visiteurs, avec des prix d'entrée toujours plus élevés, avec une qualité de visite qui malheureusement n'était pas toujours au rendez-vous, ce qui peut d'ailleurs nous poser des problèmes vis-à-vis de nos hôtes étrangers, parce que nous devons être exemplaires en termes d'hospitalité, en termes de qualité d'accueil. Donc voilà, donc on a un ensemble de questions, voilà, qu'on peut aborder très sereinement et se préparer au retour, qui finira par arriver bien évidemment, de nos visiteurs, notamment des visiteurs étrangers.
Catherine Péga, est-ce que c'est une pierre dans votre jardin, très grand jardin de Versailles, que vient de lancer Jean-Michel Tebelem, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, trop rapidement? Vous me disiez, dans un entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec vous il y a quelques temps pour la revue Esprit, notre devoir est de recevoir le plus grand nombre de visiteurs, d'où l'idée l'été d'ouvrir, par exemple, ça ne l'est pas fait encore, le château, aux mêmes horaires que les jardins, jusqu'à 20h30, par exemple. Est-ce que, justement, ce devoir de recevoir le plus grand nombre de visiteurs, vous êtes toujours d'accord pour l'accomplir?
Oui, ça me semble toujours juste. On a eu cette conversation il y a déjà quelques années. Et bien évidemment, notre préoccupation était de gérer ce plus grand nombre et de donner, comme vous le disiez à l'instant, une qualité d'accueil au plus grand nombre en ouvrant davantage le château de Versailles. Et l'idée, c'était comment faire pour ouvrir davantage de portes, montrer plus de choses pour justement essayer d'accueillir le mieux possible ces visiteurs. On voyait bien aussi qu'il y avait une limite. Cette limite, on l'atteignait, et je le reconnais très volontiers, hein, bien sûr.
Ouais, on
l'atteignait l'été, ne l'atteignait pas du tout l'hiver. Et donc là aussi, on peut être nuancé par rapport à nous-mêmes. Il y avait des moments où, effectivement, on attendait beaucoup
pour visiter le château de Versailles. C'est quoi la limite pour vous de Versailles, par exemple, la galerie des glaces?
C'est très difficile à dire, parce que ce château est très grand. On est très rarement serrés les uns contre les autres à un instant T. Et alors après, on peut faire des élucubrations sur les jauges en fonction de la sécurité. Et ça, la sécurité est primordiale. Mais je crois que je ne vous dirai pas le chiffre maximal qu'on pourrait accueillir en respectant les règles de sécurité, car c'est énorme par rapport à l'ampleur du château de Versailles, et c'est évidemment beaucoup trop. Donc simplement, je crois qu'on essayait d'être le plus raisonnable possible en essayant de gérer ces flux, en essayant de diversifier nos propositions, en essayant d'enrichir notre accueil, en faisant, déjà on avait inauguré cette formule des billets eurodatés qui se généralise et qui à mon avis restera ensuite, ce sera peut-être un des points positifs après cette douloureuse expérience, c'est que les gens réserveront leurs billets en ligne, ils en ont pris l'habitude, et maintenant ils le font communément pour venir à Versailles. Donc on tirera ce genre de leçons, et je pense qu'il faudra effectivement raisonner peut-être autrement sur des plus petits groupes. D'ailleurs, on voyait cette tendance se révéler, on voyait de moins en moins de grands autocars, de plus en plus de minibus, pardon de rentrer dans les détails,
mais
c'est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, on encourage beaucoup les visites par petits groupes. Aujourd'hui, ce sont des groupes de 15, ça fonctionne très bien. On peut le développer beaucoup en ouvrant, encore une fois, ce Versailles le plus possible.
Le 15 juin dernier, nous avions à notre micro Jean Doussonville, qui est le directeur général des établissements publics du domaine national de Chambord, autour justement de ce que disait à l'instant même Jean-Michel Tebelem, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une course aux chiffres. Est-ce qu'on peut continuer à faire plus de visiteurs à chaque fois dans des lieux qui finalement sont assez restreints, qui n'étaient pas prévus pour cela? Jean Doussonville, on l'écoute.
Je pense effectivement qu'il faut apprendre à en sortir, parce qu'on sait bien que dans tel ou tel lieu, cela finissait par porter atteinte au patrimoine, à la présentation des collections et tout simplement à la qualité de la visite. Il faut voir aussi que nous vivons les uns les autres de ces recettes touristiques. Donc il faut peut-être apprendre à créer de nouvelles recettes paratouristiques ou diversifiées, et en même temps en échappant à un dilemme qui était mentionné au départ, qui est celui du tourisme de masse versus tourisme de luxe. On peut avoir un tourisme de grand public large, qui ne serait pas un tourisme de massification, et on peut avoir une approche du luxe qui n'est pas le luxe au sens du coût, de la cherté ou de l'élimination par le pouvoir d'achat, mais par l'authenticité ou la qualité en fait de ce qui est offert. Par exemple, l'origine d'un produit alimentaire, ou la qualité d'une visite offerte au jeune public, par exemple. Ce sont des travaux à approfondir.
Ce sont des questions que vous vous posez, comme Jean d'Oussonville au Centre des Monuments Nationaux. Philippe Bélaval, je redonnerai ensuite la parole à Jean-Michel Tobelem.
Oui, absolument. Étant entendu que, comme Catherine Pégard, enfin moi je pense que nous devons continuer évidemment à ouvrir, ouvrir le plus largement possible et ouvrir aussi le mieux possible. Et ce n'est pas forcément incompatible. Il faut quand même rappeler que pour de grandes structures publiques comme le Centre des Monuments Nationaux, mais aussi Versailles et aussi Chambord, le fait de développer des ressources propres, c'est d'éviter le recours à l'impôt, et c'est de ménager le contribuable. Par conséquent, je pense qu'il n'y a rien que de vertueux de chercher à augmenter le niveau de ressources propres vis-à-vis de collectivités publiques dont la pérennité du soutien est tout sauf garantie. C'est peut-être...
Dites-nous pourquoi vous ne croyez pas à la pérennité du soutien des collectivités publiques.
Parce qu'on voit très bien que pour financer un certain nombre de fonctions sociales absolument fondamentales, comme la santé, c'est un sujet de grande actualité, comme l'éducation, comme le logement, comme l'aide aux plus démunis, les collectivités publiques, l'État comme les collectivités territoriales ont besoin de moyens extraordinairement importants et ont face à elles des contribuables dont les capacités contributives ou l'acceptation de l'impôt a tendance à plafonner, pour pas dire qu'elle a tendance à reculer. Bon, et par conséquent, l'idée que des structures comme les nôtres qui portent un patrimoine extrêmement lourd, dont l'entretien coûte très cher, dont l'exploitation met en œuvre beaucoup de moyens, essaie de se rapprocher de l'autofinancement, sans être un libéral, vous savez, j'ai ma carrière au service de l'État, mais sans être un libéral acharné, elle ne me paraît pas mauvaise, et aujourd'hui où on a des débats comme savoir si l'État doit payer le masque ou etc., et ben se dire que quand même le patrimoine gagne sa vie n'est pas un débat hors de saison.
Jean-Michel Tobelem.
Eh bien écoutez, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Tout le monde est d'accord pour accueillir largement le plus grand nombre de visiteurs possible. Nous sommes un grand pays hospitalier, il faut continuer à l'être. Nous devons accueillir du mieux possible nos visiteurs étrangers.
50 millions de visiteurs à Paris et en région parisienne.
Voilà. Mais pour autant, je pense qu'il y a, on oublie dans la conversation, me semble-t-il, en partie, le prix à payer dans cette situation. Le prix que je vois que nous payons, c'est que c'est une moindre attractivité auprès des visiteurs nationaux. On l'a vu au Louvre, le Louvre se dit, tiens, il faudrait attirer davantage de nationaux, mais il faudrait le faire en tout état de cause. Deuxième prix à payer, c'est la sélectivité sociale. J'aimerais connaître l'évolution du profil sociologique des visiteurs dans les grandes institutions. Pour l'instant, moi, je n'ai pas les chiffres. Mais il y a des indications qui nous sont fournies par notamment le ministère de la Culture qui montrent que en réalité, le profil des visiteurs des catégories les plus modestes a tendance à se réduire. Alors, quant à l'idée que parce que ces établissements coûtent de l'argent, il faudrait obligatoirement développer au maximum les ressources propres, je pense que c'est une erreur de perspective, parce que la mission principale, c'est une mission éducative, sociale, je dirais même civique, et à ce compte-là, il faut faire très attention au fait que, évidemment, un grand nombre de personnes continueront à venir, hein, celles qui appartiennent à nos catégories, on va dire, les plus aisées ou les moins défavorisées, mais nous risquons de laisser sur le bord du chemin un certain nombre d'autres catégories qui peut-être viendront une fois à titre exceptionnel, mais qu'on aura du mal à fidéliser. Donc il faut partager ce constat, partager les chiffres, mettre les chiffres sur la table, voir comment en 10 ans on a ou non progressé en termes de capacité à s'adresser à des publics variés, élargis sur le plan sociologique. Et à ce moment-là, on pourra reprendre la conversation. Mais s'il s'agissait de dire parce que cet établissement coûte de l'argent, alors il faut développer à tout prix les ressources propres, eh bien j'invite à faire payer l'entrée dans les bibliothèques. Et évidemment, on voit bien l'absurdité de ma proposition.
Catherine Pégard, justement, est-ce que vous avez fait ce type de travaux pour connaître sociologiquement votre public français en particulier, parce que le public étranger c'est un peu différent à Versailles?
Mais je pense que justement il ne faut pas opposer l'idée d'augmenter nos ressources propres à celle d'augmenter le nombre de nos visiteurs qui ne viendraient pas spontanément ou malheureusement n'auraient pas les moyens de venir au château de Versailles. Je prends l'exemple du château de Versailles. Par exemple, dans les dernières années, nous avons décidé d'ouvrir le lundi le château de Versailles pour les scolaires et les publics éloignés des musées. C'est une ouverture gratuite à tous ceux qui ne pourraient pas y venir autrement. Je crois que c'est une avancée qui est majeure. Dans les dernières années, nous avons accueilli de plus en plus de groupes d'enfants, de scolaires et on avait d'ailleurs coutume de dire que on comprendrait pas qu'on accueille les gens venus du bout du monde et qu'on ne soit pas capable de recevoir les enfants des Mureaux ou de Trappes qui se situent aussi dans les Yvelines, non loin de Versailles.
En 2016, vous me disiez que vous essayeriez de faire une campagne pour inviter les Français à revenir à Versailles. Ça s'est fait, mais un peu de façon contrainte, en l'occurrence.
Un peu d'une façon contrainte, inciter les Français à revenir à Versailles, c'est vrai que nous l'avons tous dit et nous l'avons tous dit avant cette épidémie, mais je crois aussi que les Français, quand ils ne venaient pas au Louvre ou à Versailles, ils étaient en train de visiter les offices à Florence ou de visiter d'autres lieux en Europe. Je crois que le tourisme, il n'est pas à sens unique. On n'attendait pas simplement nous, les visiteurs étrangers, les visiteurs français, aller visiter d'autres lieux. Mais je crois aussi qu'effectivement, nous avions un travail à mener pour montrer que nos lieux évoluaient, que nos lieux aussi évoluaient pour accueillir les Français et que la Galerie des Glaces qu'ils avaient vue quand ils étaient enfants était toujours là, mais qu'il y avait beaucoup de choses autour qui peut-être s'étaient améliorées et qu'il faudrait connaître.
Alors peut-être la difficulté, c'est que beaucoup moins de gens ont voulu voir Paris.
On a voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard.
France Culture.
T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont-Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal.
Le temps du débat.
Au hasard. Mais je te le redis, chauffe ta selle, chauffe. Je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, caille, caille. Le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon.
Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez le temps du débat tourisme culturel, un modèle qui s'écroule avec nos trois invités, Jean-Michel Tobelem, professeur associé à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et directeur d'Option Culture, Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, et Philippe Bélaval, qui se trouve à Sensé sur le site, un des sites du centre des monuments nationaux qu'il préside. Philippe Bélaval, vous nous disiez tout à l'heure, il faudrait que l'État nous suive, donc en tant que centre des monuments nationaux. C'est quoi l'état des finances, l'état du mécénat pour les grands monuments que vous gérez, que ce soit le Mont-Saint-Michel, la Conciergerie, Carcassonne et tout un tas d'autres monuments sur le territoire national?
Écoutez, nous avons une grande force qui est consubstantielle à l'organisation de notre établissement, qui est un système de péréquation, c'est-à-dire que nous mettons toutes nos recettes dans une caisse unique et que nous finançons toutes nos dépenses à partir de cette caisse, ce qui nous permet d'amortir un certain nombre de chocs conjoncturels importants. On l'a vu par exemple après les attentats terroristes en 2015 et d'une certaine manière, on le voit aujourd'hui.
Mais les locomotives que sont les centres parisiens, par exemple, qui sont beaucoup plus visités, ont été touchés, là.
Bien entendu, et c'est la raison pour laquelle nous anticipons plus de 50 millions de pertes de recettes sur cet exercice-ci, et que, effectivement, si l'État ne vient pas à notre secours à la fin de l'année, eh bien, nous serons dans une situation extrêmement difficile pour l'année prochaine. Difficile par rapport à nos missions, évidemment, de conservation des monuments, conservation proprement dite, mais également d'ouverture et de mise en valeur d'animation.
Il faut dire, par exemple, que beaucoup de ces monuments vivent aussi des locations de salles, des locations d'espace, et que tout ça, c'est tombé à zéro, là.
Complètement. C'est-à-dire que, si vous voulez, non seulement on a perdu les visites, mais on a perdu, comme vous le disiez en commençant, les recettes de boutique. On perd des recettes des recettes de location, manifestation d'entreprise, mariage, fête de famille, etc. Vous disiez tout à l'heure, si je peux me permettre, Emmanuel Laurentin, vous disiez l'été a été un peu moins pire que ce que l'on craint. Bon, peut-être au niveau de la visite de monuments historiques ou de musées, mais il faut quand même pas oublier que le tourisme culturel, c'est aussi les festivals, c'est aussi
bien sûr, évidemment, vivant. Une catastrophe.
Et là, le sinistre est extrêmement important. Vous aviez la gentillesse de rappeler que les soirées lyriques de Sorcé ont malheureusement dû être annulées, mais beaucoup d'autres grandes manifestations, vous le savez, avec des répercussions terribles sur la pérennité d'un certain nombre d'associations et sur la vie quotidienne de beaucoup d'artistes et de professionnels du spectacle. Donc c'est un sujet que traite Madame Bachelot, mais je dirais qu'il ne faut pas que une déconvenue peut-être un peu moins préoccupante que ce qu'on pouvait redouter sur nos institutions patrimoniales fasse perdre de vue cet aspect du sinistre sanitaire qui est considérable dans le champ du spectacle vivant.
D'autant, Jean-Michel Tobelet, mais vous êtes aussi spécialiste de cette question-là en tant qu'analyste du milieu culturel, que le mécénat ne va pas se retrouver aussi facilement qu'il l'a été auparavant. On parlait d'un modèle. Ce modèle, c'était aussi celui où l'État se retirant pour financer certaines des missions du patrimoine, en particulier culturel, eh bien, on avait laissé la place à un mécénat qui peut-être pourrait le remplacer au fur et à mesure du temps. Mais là, les grands mécènes sont encore là pour certains des grands monuments, mais pas pour tous.
Bon, cela dit, ce modèle, il avait été un petit peu écorné par la Cour des comptes dans la période récente, parce que nous savons tous que ça a bénéficié principalement, pas uniquement bien entendu, mais principalement à des grands musées, des grands monuments qui continueront à garder la même attractivité vis-à-vis ou l'Opéra de Paris, vis-à-vis des grands mécènes. Mais est-ce que vous me permettez de revenir un instant quand même sur économique, parce que je voudrais pas qu'on laisse passer l'idée qu'on oppose les visiteurs étrangers aux visiteurs nationaux. Nous avons cette obligation d'accueillir tout visiteur quel qu'il soit. Mais j'attire l'attention sur le fait que quand nous accueillons des clientèles lointaines, peut-être que nous nous préoccupons un petit peu moins du fait qu'ils viennent une fois et ensuite ils retournent dans leur pays. Or, accueillir des clientèles, notamment des publics proches de chez nous, qu'elles soient françaises ou européennes, ça suppose de développer la capacité, l'accueil, l'animation des lieux, la fonction pédagogique, l'interprétation dans combien de lieux que je visite, y compris, je ne trouve pas d'espace pour les enfants. Je ne parle pas des enfants sur le temps scolaire, je parle des enfants qui visitent avec leurs parents des lieux qui leur soient proposés comme cela existe, nous n'avons pas besoin d'aller très loin, dans les pays scandinaves, par exemple, de façon systématique. Donc je dis que ce n'est pas la même chose, ce modèle productiviste qui consiste à faire venir de plus en plus de gens, de plus en plus lointains, et le fait d'essayer d'indiquer à nos concitoyens que ces monuments, ils y sont les bienvenus pour une simple bonne raison qui leur appartiennent. Ils sont chez eux, dans ces monuments, et j'aimerais vraiment que nos concitoyens en soient persuadés et qu'ils y reviennent le plus souvent possible.
Catherine Pégard.
Je ne peux pas dire mieux. C'est exactement ce que je pense.
Et donc, il y a tous les espaces pour pouvoir accueillir tous les enfants à Versailles.
Bien sûr, et nous essayons de les développer. Alors, bien sûr, je conviens qu'on a peut-être pris du retard au fil des années, mais c'est une mission qui nous est donnée à tous, d'ailleurs, lorsque nous sommes nommés dans ces lieux, de développer l'accueil et l'accueil de tous les publics, et particulièrement l'accueil des famille et l'accueil des enfants. Et donc, nous nous y employons. Et juste une petite remarque sur les étrangers, mais juste pour sourire. Vous disiez, oui, les étrangers, ils viennent et puis ils repartent. C'est pas toujours vrai. Nous avions, quand je suis arrivée à Versailles il y a 9 ans, il devait y avoir 5% de Chinois. L'année dernière, 15%. Il y en avait 5%.
Oui, et maintenant,
dernière,
c'est 15%.
13% de Chinois. Eh bien, on constatait que déjà, ils revenaient C'est-à-dire que nous avions des visiteurs chinois qui revenaient et qui d'ailleurs connaissaient très bien l'endroit, voulaient aller voir des choses en particulier. Donc ça aussi, ça nuance un petit peu les choses. Et je crois que on se doit d'accueillir tous de la même façon et de leur donner à tous ce qu'ils attendent. Et quand on vient à Versailles, on attend essentiellement du rêve et il faut qu'on l'offre ce rêve. Il faut qu'on offre aussi la compréhension de ces lieux. Et donc, on a beaucoup développé tous les instruments de communication. Nous y sommes aidés d'ailleurs par le numérique, il faut le remarquer. Et je crois que là aussi, il ne faut pas opposer non plus sur ce plan-là les étrangers et les Français.
Mais prenons ce cas tout de même sur lequel je lançais Jean-Michel Tobelem, du mécénat. Vous avez inauguré à Versailles, mais il y a très très longtemps maintenant, cette question du mécénat, parce que les Américains...
Le mécénat a sauvé Versailles.
Voilà, le mécénat a sauvé
tout
Versailles
simplement,
il y a très très longtemps, mais c'était il y a déjà 50, 60
ans. Après la Première Guerre mondiale, les Américains ont sauvé Versailles et depuis, effectivement, nous comptons beaucoup sur le soutien de nos mécènes.
Et vous comptez encore toujours beaucoup sur le soutien des mécènes après la crise que nous
Bien
avons
sûr,
connue.
Et
vous avez eu des assurances, parce que vous n'avez pas l'assurance du ministère, disiez-vous tout à l'heure,
non,
de pouvoir avoir...
Non, on n'a jamais l'assurance non plus de nos mécènes. C'est une conversation qui se noue, qui s'entretient avec eux. Nous avons la chance d'avoir des mécènes fidèles, des mécènes privés, beaucoup, parce qu'on parle évidemment beaucoup des entreprises et pour des lieux aussi importants que Versailles, les entreprises ont un rôle majeur dans l'aide qu'elles nous apportent, mais il y a aussi tout ce mécénat anonyme très important et dont on a tout à fait besoin en ce moment pour montrer justement cette fidélité à un lieu comme Versailles et pour montrer que ce soutien nous est indispensable et pour montrer aussi que la philanthropie nous est indispensable.
Et sur ce côté, sur ce point exactement, Philippe Bélaval, est-ce que pour le Centre des Monuments Nationaux et pour tous les monuments très nombreux, plus d'une centaine que vous gérez par l'intermédiaire de ce Centre des Monuments Nationaux, eh bien c'est la même chose que ce que vient de dire Catherine Pégard, la fidélité des mécènes?
Évidemment que nous essayons de maintenir, malgré les difficultés économiques que certains peuvent connaître en ce moment, du fait de notre implantation nationale très répartie sur tout le territoire, nous avons évidemment quelques grandes entreprises, quelques grands mécènes, mais il y a beaucoup d'entreprises locales, de mécènes locaux qui conservent évidemment une relation privilégiée avec nos monuments et nous espérons que cette relation privilégiée nous assurera leur fidélité, mais il n'y a rien de sûr, comme le disait Catherine Pégard, et ça va aussi dépendre de la manière dont l'économie pourra se redresser après le choc du confinement et de la crise sanitaire.
Vous disiez, Catherine Pégard, dans une interview récente, je crois que c'était sur RTL, que eh bien, vous alliez maintenir les emplois, nombreux emplois qu'il peut y avoir à Versailles. Combien d'emplois directs, en l'occurrence ?
1000.
1000. Et donc, 20 000 emplois induits autour...
Oui, c'est le calcul qui a été fait il y a quelques années.
Qu'est-ce qu'il en est, justement, par exemple, des guides conférenciers qu'on a vus manifester un peu partout pendant tout l'été, faire des flash mobs? On en écoute une, par exemple, qui s'appelle Janice, guide conférencière depuis plus de 30 ans.
Mon dernier service était le 12 mars. Depuis, j'ai les droits au chômage que je suis en train d'épuiser parce que je travaille en CDD, salarié pour multiples employeurs. Donc, comme beaucoup de mes collègues aujourd'hui, nous sommes la partie de la profession qui ont été laissés pour compte.
Alors justement, qu'est-ce que vous réclamez?
D'abord, une aide immédiate et puis exceptionnelle pour les guides qui sont tombés dans la précarité, ceux qui ont zéro revenu, zéro aide, et aussi qu'on soit traité comme les intermittents du spectacle, parce que notre travail est intermittent. Donc, eux, ils ont des aides jusqu'en été 2021. Et pour nous, ça sera pareil, parce que le tourisme avec les étrangers, ça reviendra pas avant l'année prochaine, l'été au moins. Donc, on a besoin de survivre cette année décemment.
C'est ce que disait Janice au micro de BFM Paris. Qu'est-ce qu'il en est, Catherine Pégard?
Je crois que le ministère de la Culture est tout à fait, évidemment, attentif.
Alerté.
Et plus que ça, très attentif à cette situation, parce que c'est une situation effectivement très difficile, puisque les guides conférenciers sont liés à la venue des groupes, et si les groupes ne sont pas là, ils ne viennent pas. Alors, peut-être pour voir une petite lueur d'espoir, je crois qu'on voit poindre l'idée que les groupes pourraient revenir un peu à l'automne et bien sûr ça ne suffira pas, mais nous employons beaucoup à travers les visites de petits groupes que l'on souhaite organiser à essayer de nous mobiliser aussi pour ces guides conférenciers.
Philippe Bélaval, très brièvement.
Je ne saurais mieux dire à mon tour que Catherine Pégard. C'est la même situation. En effet, effectivement, en fonction des lieux, de ménager des groupes, mais c'est vrai qu'il y a une équation économique et que pour ces guides, qui sont des entrepreneurs individuels, la situation reste
catastrophique pour certains. Jean-Michel Tebelem.
Oui, il y a un principe de solidarité qui s'impose bien évidemment comme à l'égard d'autres professions, mais je voudrais dire par rapport à cette conversation que nous avons autour du modèle économique, qui est une chose encore plus importante à mon sens, c'est de réfléchir sur la question du sens. Il faut que nous soyons d'accord entre nous, parce qu'apparemment ce n'est pas nécessairement le cas, de savoir quelle est la mission principale des établissements. Et où est-ce qu'on place le curseur en termes de développement des ressources? À mon sens, le curseur est mal placé dès lors qu'on porte atteinte aux missions qui sont déterminées par la collectivité publique. Ces établissements existent, les musées, les monuments, les festivals, pour servir les citoyens. S'il advenait, à tort ou à raison, que le développement des ressources se faisait au détriment de cette mission sociale, éducative, civique, alors je pose la question qu'il faut, de savoir comment on va pouvoir clarifier cette situation et se dire où sont les priorités. Quelle est la priorité, quelle est la mission, quelle est la raison d'être de ces établissements?
Philippe Bellaval, vous dites que ce n'est pas le cas.
Oui, il ne se fait pas au détriment de...
ça reste
les
à voir.
Il les finance. Et aujourd'hui, notre difficulté, c'est de savoir financer ces missions alors que nous n'avons plus ces ressources propres et que nous ne savons pas si nous pouvons et dans quelle mesure compter sur l'État, malgré les propos encourageants que nous tient Madame Bachelot. Donc, il ne faut pas non plus opposer le modèle des ressources propres à la mission culturelle que ce modèle soutient.
Catherine Pégard, rassurée, Jean-Michel Tebelem.
Mais non, mais je ne peux pas dire autre chose que ce que vient de dire Philippe Bellaval. J'ajoute d'ailleurs que on a pu voir aussi que les mécènes se sont mobilisés dans ce sens, parce que nous avons de plus en plus de mécénats qui sont tournés vers la solidarité et qui nous permettent justement d'ouvrir pour les enfants, les publics éloignés des musées, le château de Versailles.
Est-ce que nous avons une expérience que je peux
citer. Il y a une expérience que je peux citer. Le groupe Emmerich soutient une opération au château de Versailles pour 5000 enfants qui chaque été viennent des centres aérés de la région parisienne visiter Versailles. Et cette année, comme ils ne pouvaient pas venir, nous sommes même allés nous-mêmes dans les centres aérés faire des animations. Alors vous pouvez penser que ça n'est pas suffisant, mais en tous les cas, c'est une démarche que l'on fait. Et en effet, comme Philippe Bellaval, je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer les uns aux autres.
Merci en tous les cas d'être tous les trois venus au micro du Temps du Débat. Je rappelle que nous avons fait beaucoup d'émissions sur ces questions justement consacrées à la culture et consacrées à la façon dont la culture va pouvoir vivre à travers cette crise. C'était donc avec vous aujourd'hui Catherine Pégard, Jean-Michel Tebelem et avec vous Philippe Bellaval sur le chemin du retour vers Paris. Merci à tous les trois. C'était le Tour du Débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier et Iman Gilles. À la technique aujourd'hui, Edouard Rubinstein. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Demain, nous nous poserons une autre question liée à la crise de la Covid. Entreprise et Covid-19, refermer l'open space. Dans une poignée de secondes, une poignée de minutes, vous pourrez retrouver la nouvelle émission d'Arnaud Laporte, Affaires culturelles qui traite justement de tout ce qui concerne la culture en temps de crise et en particulier aujourd'hui avec le réalisateur, le grand réalisateur Werner Herzog, réalisateur de Aguirre ou la colère de Dieu, de Fitzcarraldo ou encore de l'énigme de Kaspar Hauser qui viendra parler en particulier de son film Family Romance. C'est à 19h03 la nouvelle émission d'Arnaud Laporte, Affaires culturelles, mais dans une poignée de secondes cette fois-ci, il est l'heure du titre, des titres de l'actualité avec Marie-Hélène Duvigneau.